Chapitre 19. Roger revint à Paris enchanté, enchanté de l'empereur, plus enchanté encore du ministre. Le duc n'eut pas fait davantage pour le fils de son meilleur ami, lui donnant la promesse de l'attacher à son cabinet et, du même coup, l'invitant au jeudi de la duchesse d'Arverne. Sans cette invitation, Roger se fût assurément demandé ce qui lui méritait une pareille faveur, si prompte et si extraordinaire. Mais les jeudis de la duchesse lui parurent l'expliquer suffisamment. En effet, il n'était personne du petit monde parisien qui ne sût que le duc d'Arverne, fils d'un petit notaire du Dauphiné, nommé tout simplement Janel et devenu duc par la grâce de Napoléon III, payant les services rendus au prince Louis, proscrit ou prisonnier, aussi bien qu'à l'empereur, vivait dans l'admiration et l'adoration de tout ce qui portait un grand nom et appartenait à la vieille noblesse. C'était là chez lui une religion d'enfance qui s'était, il est vrai, singulièrement refroidie quand, jeune homme, il était allé offrir ses services actifs au prince Louis-Napoléon Bonaparte au lieu de porter ses hommages platoniques au comte de Chambord, mais qui s'était réveillé ardent et passionné le jour où, devenu duc, il s'était cru noble lui-même. Il lui fallait des représentants de la vraie noblesse autour de lui. C'était une manie, une maladie. De là, l'invitation au jeudi. Assurément, cela n'avait rien pour plaire à Roger. La duchesse d'Arverne, avec son visage pâle, ses airs de sphinx prêts à dévorer celui qui ne la devinerait point et ses yeux violents qui regardaient les hommes avec une expression de curiosité profonde, comme s'il se demandait « Serait-ce celui-là ?» ne lui disait rien d'attrayant. Et s'en aller faire le duc dans son salon le jeudi pendant une heure ou deux n'aurait rien de récréatif. Par malheur, il n'avait plus sa liberté et s'il voulait se défendre contre son grand-père, il fallait bien qu'il en achetât et qu'il en payât les moyens. Il rentra chez lui satisfait et de belle humeur. Il n'avait pas perdu sa journée. Mais là, une mauvaise nouvelle effaça cette heureuse impression. En belle place, sur la table de sa chambre, se trouvait le coffret qu'il avait envoyé la veille à Raphaël. La clé était accrochée autour. Il la prit et ouvrit le coffret. Il était vide. Rien! Ni les billets de banque qu'il y avait mis la veille pour rembourser Raphaël, ni lettres, ni billets, ni cartes. Il interrogea son valet de chambre et celui-ci raconta qu'il avait porté le coffret la veille, comme cela lui avait été commandé rue Drouot. Mademoiselle Raphaël était chez elle et il lui avait remis le coffret à elle-même. Elle l'avait ouvert devant lui et, après en avoir retiré les billets de banque, elle avait paru y chercher une lettre. N'en ayant point trouvé, elle lui avait demandé si monsieur le duc ne lui en avait point donné une. Il avait répondu négativement et il s'était retiré sans qu'elle lui adressât d'autres questions. Cependant, il était facile de voir qu'elle n'était pas contente. Elle avait paru hésiter comme pour le questionner, puis tout à coup, se ravisant, elle n'avait rien dit. Elle n'avait même pas regardé le coffret. « Et quand l'a-t-on rapporté ?»« Il y a une heure environ. » « Qui ? Une espèce de monsieur sans être un monsieur, plutôt un sous-officier retraité. 50 ans environ, décoré, tournure militaire, les épaules larges et effacées, les cheveux coupés en brosse, moustache grisonnante et impériale, parlait bref. » Le sentiment de contrariété qu'éprouva Roger devint d'autant plus vif qu'il ne pouvait pas ne pas s'avouer que, si les choses prenaient cette tournure, c'était sa faute. Qu'il eût porté lui-même le coffret chez Raphaël et qu'il se fût expliqué nettement, avec ménagement, mais aussi avec précision, la situation eût été tranchée. En garde contre lui-même, il ne l'avait point fait. Il avait esquivé cette explication, il avait reculé devant cette visite, et voilà que maintenant, cette situation se compliquait. Cela était mauvais et dangereux. Car Raphaël, qui arrivait à Paris ruiné, misérable, ayant besoin de refaire sa vie, voudrait sans doute exploiter cette influence. Comment se défendrait-il contre elle ? Il ne s'agissait point d'une indifférente, pas plus qu'il ne s'agissait d'une femme craintive, ignorant ce qu'elle peut oser. Il sentait qu'il pouvait être faible. Décidément, le mieux était d'aller bravement au-devant du danger et de ne pas le laisser grossir. Il rapporterait le coffret et, en même temps, il s'expliquerait de manière à détruire les espérances qu'elle avait pu fonder. Il ne voulait pas de maîtresse.